Donc on fait cette réunion effectivement autour de la venue à Paris du professeur Andreas Kortenkamp, qui est professeur de toxicologie à Londres et qui est une des personnes qui connaissent le mieux le dossier perturbateur endocrinien, puisqu'il a, il vient de rendre un rapport, enfin il l'a rendu plutôt l'an passé, à la Commission européenne. Il avait été demandé par la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens. Il avait été dans le groupe qui avait déjà fait l'état des lieux, qu'on appelle le rapport Evans, publié en 2011. Et le rapport qu'il a signé de son nom, donc, fait des propositions à la Commission européenne. Propositions qui embarrassent manifestement la Commission européenne, puisqu'elle elle a sollicité, enfin plutôt la Direction générale santé et consommation, a sollicité l'EFSA pour rendre un rapport qui a conclu qu'on ne pouvait pas conclure. C'est pour résumer rapidement les choses. Et donc, on voit bien qu'on est dans une période clé sur ce dossier clé, dans une période aussi où la politique de santé est une période clé, qu'on est vraiment dans la croisée des chemins. Et c'était pour ça qu'on avait souhaité effectivement faire cette réunion autour du professeur Kortenkamp, de façon à ce qu'il resitue les enjeux et qu'il dise effectivement où on en est du point de vue de l'état de la science aujourd'hui sur la question des perturbateurs endocriniens. Et donc, il ne s'exprime pas en français, donc on fera une traduction. Il est venu avec Olwen Martin, qui est une chercheuse qui travaille dans son laboratoire. Et donc, j'en profite aussi, avant qu'il n'arrive, pour remercier Chantal Joanneau, qui nous accueille ici au Sénat, avec Leïla Hachi. Je crois que c'est important, effectivement, de bien noter les deux parrainages, parce que la France est dans une situation dans laquelle on n'avait pas l'habitude, qui est d'être le pays pilote aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde, sur une question de santé-environnement. C'est-à-dire pour moi qu'il y a un peu de recul sur ces questions, c'est assez nouveau, mais je m'en réjouis, j'espère que cela va continuer. Pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, les députés français et les sénateurs français ont voté à l'unanimité l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires. Les parlementaires français du Parlement européen ont voté à l'unanimité, non, pas l'ensemble du Parlement européen, mais les Français en tout cas, le rapport Westland, qui est sorti il y a quelques semaines, qui est un bon rapport, qui fait des propositions tout à fait positives. Et donc, on est effectivement là, on a la responsabilité en tant que pays leader sur ces questions, eh bien de continuer à agir pour que cette question des perturbateurs endocriniens soit véritablement prise en compte dans la politique de protection de la santé et de la protection de l'environnement. Et c'est l'enjeu aujourd'hui. Et c'est important que cette problématique soit portée par le maximum de forces politiques, parce que cette question-là dépasse les clivages politiques. Elle doit être comprise, en tout cas, comme dépassant les clivages politiques. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas s'intéresser à la santé des enfants en fonction des opinions politiques de leurs parents. Ce serait un mauvais calcul. Et aujourd'hui, l'enjeu est celui-là. Il est de la protection des générations futures. Je crois que c'est un engagement qui doit intéresser et mobiliser toute la société et à tous les niveaux, et évidemment les responsables politiques. Et donc c'est un plaisir, effectivement, et un honneur que Chantal Joanneau et Leïla Hachi nous accordent leur parrainage pour cette journée. Et donc je vais attendre encore. Il arrive ? Il n'a pas tardé. Bon. Voilà. Donc c'est un état, je vous donne un peu l'état de la situation. Donc un enjeu perturbateur endocrinien au niveau européen, un enjeu au niveau français. Nous sommes actuellement engagés dans un groupe de réflexion sur la stratégie nationale perturbateur endocrinien. La troisième réunion s'est tenue hier. L'objectif, c'est effectivement de proposer une stratégie nationale. Donc le Conseil des ministres se prononce, le gouvernement se prononce sur cette stratégie nationale. Nous espérons qu'elle sera, non pas qu'elle doit être ambitieuse, parce qu'elle ne peut pas ne pas être ambitieuse. Voilà. Si c'est malheureusement, c'est un peu ce qu'on peut craindre actuellement, de reprendre effectivement tout ce qui a été fait en disant, vous voyez, tout ce que l'on a fait, on peut faire des rapports et on peut sortir un rapport qui fait 100, 150 pages, ça n'est pas un problème. Il y a des gens qui savent faire, donner l'impression que l'on fait sans faire. Et c'est pas de ça dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin, effectivement, c'est d'afficher une ambition et des moyens pour arriver à cette ambition, qui soit à la hauteur, effectivement, des enjeux. Et donc, il y a la protection de la santé de l'homme et la santé de l'écosystème. Parce que derrière ces deux aspects, derrière l'aspect perturbateur endocrinien, il y a deux grands enjeux, qui effectivement, du point de vue de la protection de l'environnement, la chute de la biodiversité, ça n'est pas le seul élément, mais quand on voit le niveau de contamination de l'écosystème, quand on voit l'impact, effectivement, principalement sur la reproduction, mais pas seulement d'ailleurs, sur cet écosystème, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la conséquence de cette contamination générale de l'écosystème. Et on a des preuves de plus en plus manifestes. On a des preuves de plus en plus manifestes aussi que la santé de l'homme, c'est pas dans le futur, mais aujourd'hui, est directement impactée par cette contamination générale de l'écosystème. Et on a d'ailleurs des preuves où on montre que le niveau de contamination est le même. Je pense au panda, animal fétiche s'il en est, de nos amis du WWF, qui est autant contaminé en perfluoré que l'Américain moyen ou que l'Européen moyen. Alors quand on s'interroge d'ailleurs sur la libido du panda, je pense qu'on ferait bien de s'interroger sur sa contamination en perfluoré. Mais ça, ça n'est pas encore vraiment dans les esprits, alors que on a la preuve, effectivement, la preuve qui nous est fournie par les jeunes Danois. Et vous voyez, généralement, c'est l'expérimentation animale qui protège l'homme, là, c'est l'inverse. Les jeunes Danois les plus imprégnés en perfluoré ont une baisse de la qualité du sperme qui les met au niveau, effectivement, de l'infertilité. Alors c'est un exemple que je donne, mais on en a beaucoup d'autres, évidemment, et qui montre bien l'importance des enjeux et l'importance du lien entre santé de l'homme et santé de l'écosystème. Et cet enjeu de la SNPE, c'est celui-là, qu'on trouve aujourd'hui les moyens, qu'on ait la volonté politique de s'engager pour faire en sorte qu'effectivement, aucun organisme, et je reprends là une formule que j'emprunte à John Kerry, quand il était encore sénateur, qui a fait une proposition de loi déposée devant le Congrès américain qui disait « L'organisme d'aucun parent ne doit être contaminé par un perturbateur endocrinien ». C'est un projet, c'est un objectif ambitieux. Mais il faut se donner cet objectif et aller dans ce sens-là. Parce qu'on sait que c'est à partir d'une contamination même faible, compte tenu de ce que l'on sait sur les niveaux de contamination, de ce que l'on sait sur l'effet cocktail, eh bien, on n'a pas le choix. Ce n'est pas simplement de faire une contrainte supplémentaire. Et quand j'emploie le mot contrainte, c'est un peu comme ça que les choses sont parfois perçues au niveau des milieux industriels. Et j'expliquais ça hier, justement. C'est l'inverse. Il faut concevoir cette contrainte comme une chance. C'est comme cela qu'il faut concevoir aujourd'hui l'innovation. Voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de peser pour avoir une stratégie nationale perturbateur endocrinien ambitieuse.